chaud au cœur de voir qu'on n'est plus seul. Ça fait chaud au cœur de voir qu'on ne doit plus se cacher, qu'on doit totalement les filles là. Je suis allée m'asseoir, je me suis assise en face de la porte et il y a quelqu'un qui m'a demandé pourquoi tu t'assieds là. Je dis c'est ma... Je dois toujours trouver par où la porte de sortie, la sortie c'est où? Ça c'est le réflexe du rescapé, du survivant. On ne sait jamais. Et d'abord c'est pas dit, c'est calme-toi. Aujourd'hui tu ne risques rien. Donc tu peux aller t'asseoir à la place de la demande. Tu n'auras pas à courir de toute façon avec tes pagnes, tes vieux genoux, tu auras du mal. Donc du coup je voulais vraiment vous remercier de honorer aujourd'hui, pour nous les survivants, mais surtout pour tous les nôtres qui ne sont plus. Je voudrais remercier très fort les enfants. Vous avez failli me faire pleurer quand vous avez parlé des grands-parents, des oncles, des cousins, de tous ceux qui faisaient partie de vos familles, que vous ne connaîtrez jamais, mais que vous connaissez. C'est pour ça que je suis vraiment très émue, parce que vous les connaissez. Et notre devoir à nous, c'est de vous les faire connaître. Et j'aime bien comment ils étaient grands, comment ils étaient beaux, comment ils étaient ceci et cela. Parce que ce qui est terrible, après le génocide, on a tendance à garder des statistiques. 1 million de morts. Mais ça signifie quoi 1 million de morts? C'était mon père, c'était mon mari, c'était ma soeur, c'était mes enfants, c'était comme vous et moi. Ils étaient beaux. Il y a des enfants qui ont dit qu'ils étaient beaux, mais il y en a qui avaient aussi des gros nez comme moi. Mes amis, les histoires du Rwanda. Mais en tout cas, c'était les nôtres. Je suis née en 1958 au Rwanda. Et en 1959, j'avais peur que c'était le mien.
Ouais.
Donc en 1959, c'est le premier massacre et le premier pogrom. Donc je suis sur le dos de ma mère quand il fuit. Les voisins, à l'époque, ça allait encore. Ma mère et moi, comme j'étais bébé, on nous a cachés et les autres, papa a essayé d'aller les cacher ailleurs. En 1994, j'avais mon bébé, mon dernier, sur mon dos. Je courais avec pour fuir. Et quand j'ai survécu maintenant, je me suis dit, j'espère que jamais mon enfant ne fuira avec un bébé sur le dos. Qu'il y ait une fin à ce cercle vicieux. Donc c'était en 59, je l'ai vu en 63, je l'ai vu en 73. Ça a été un peu plus haut encore. C'était chaque fois venir brûler, manger les vaches. Nous, on court, on se cache et puis on revient comme si de rien n'était. C'est quelque chose qui fait très mal aussi, c'est le silence. Le silence et l'indifférence de ceux qui ne sont pas en danger. Après, on fait comme si de rien n'était. Et bien sûr, nous sommes les premiers à faire comme si de rien n'était. Je me souviens en 73, là, quand on avait brûlé, on avait tout pris, on avait... Mais en plus, on nous avait chassés de l'école. À l'époque, j'avais 15 ans, j'étais adolescente, on nous chasse du lycée, on n'était pas mauvais du tout, on était brillants. Et quand je suis retournée à la maison, j'étais révoltée, la maison, il n'y en avait plus. Donc on a dû reconstruire, on a dû refaire tout. Et je me souviens, un jour, en revenant de chercher de l'eau, je vois quelqu'un, un des voisins, qui avait pillé, et entre autres, il avait pillé les chaussures de mon père. Et moi, je tirais ses chaussures, je les connaissais par cœur, et je l'ai attrapé, je lui ai dit, tu me donnes les chaussures de mon père. Il a eu peur, il me les a données, il était tellement surpris. Et moi, je m'attendais à des félicitations à la maison, et mon père m'a dit, plus jamais ça. Que je ne te vois plus jamais avec ça. Pas de colère, pas de revendication, tu ne dis rien. Et c'est là où on nous explique. Il y avait beaucoup de silence dans les familles, on ne disait pas aux enfants. Mais là, il nous a dit, silence, on n'est rien, on n'a pas le droit. Donc de comprendre tout ça, même pas le droit d'être à l'école, être renvoyé du lycée à 15 ans et le faire, c'est une année que je ne sais jamais où mettre, pas mettre dans mon CV, parce que je ne dirais pas comment faire. Bon, voilà. Mais donc on a intériorisé ça, tu ne revendiques pas. Et tu continues, et tu continues. Et cette fois-ci, on arrive en 1994, hein, ce père qui pouvait me dire, ce père qui pouvait m'encourager, parce qu'il nous avait dit aussi, ce qui nous a vraiment aidé tout le temps, ils ont pillé les choses on va planter encore. Ils ont tué des vaches, on va élever encore. Ils ont détruit les maisons, on va bâtir encore. Et c'est vrai qu'on l'a fait presque tous les 10 ans. Mais faites attention, tout ce qu'on doit savoir, c'est qu'ils ne nous prennent pas notre humanité à nous. Ça, c'est la chose que j'ai gardée de mon père. Mais cette fois-ci, en 94, même mon père qui disait ça, maintenant, on l'a tué. Mon mari, on l'a tué. Mon père, on l'a tué. Ma mère, on l'a tué. Tous les gens qui sont venus chez mon père, qui croyaient que justement, chez lui, on est chez le sage, chez l'instituteur, même s'il est tout petit, mais il est ceci et cela. Mais on les a tous tués là-bas. Avant qu'on ne les tue, les 47 qui ont été tués avec mes parents, il a demandé au tueur, donnez-nous 5 minutes. Et il a pris le temps, il a conforté, il a consolé, réconforté tout le monde. Il a dit, on va mourir, on meurt seulement parce qu'on est tout petit. Il était très croyant, il y a un enfant qui voulait être pasteur, il était pasteur. Et il a dit, on s'en va chez notre Père, chez notre Dieu. Maintenant, donnez-nous le temps de prier. Ils les ont laissés prier. Et ils ont prié, et à la fin, il a dit, et il a prié. Il a prié pour eux aussi. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et après, il leur a dit, allez-y, c'est votre travail. Et ils ont commencé, ils ont tué tous les 47. Ils les ont mis dans une fosse. Il y a 3 ans, 4 ans, nous avons pu les sortir de la fosse et les amener au mémorial. Et aujourd'hui, ce jour même, on fait la commémoration sur notre colline, à Milouté. Et je suis vraiment contente qu'ils sont retournés là où leur sang a été versé. Aujourd'hui, c'est là où ils sont allés déposer les germes de fleurs. Donc une fois, je me retrouve, je dois le dire, j'ai eu la chance, mes 3 petites filles ont survécu, donc celle que j'avais sur le dos de 6 mois, celle de 3 ans et celle de 6 ans. C'est pas beaucoup de mes amis qui n'ont pas eu cette chance. Et ça, c'est le pire, quand tu es une mère et qu'on tue tes enfants, tu survis, mais tu continues avec cette culpabilité. Je n'ai pas pu sauver mes enfants. Pourquoi j'ai survécu et mes enfants n'ont pas survécu? Cette culpabilité du survivant, il y a beaucoup, beaucoup de parents qui l'ont. Donc, nous nous sommes retrouvés entre femmes qui étaient veuves. On était nombreuses. On était très fort traumatisées, mais on ne savait pas qu'on était traumatisées par eux, au fait. On croyait qu'on est folle, parce que c'est vrai que ça débloque là-dedans. Tu ne réagis plus comme avant, tu oublies tous les symptômes maintenant que nous connaissons, que je connais sur le traumatisme. On les avait, mais on savait vraiment que c'est ça. On a pété les plombs. On était nombreuses. Alors j'ai vu Chantal qui a vu Annonciata qui a vu Clémentine, qui a vu Pauline, qui a vu Sylvie. Et chacune disait toujours, viens nous voir, viens voir les autres, parce que ça fait du bien d'être ensemble. Et c'est vrai que ça faisait du bien, on se mettait à parler des nôtres, on se permettait de pleurer, et ça nous a aidé de créer de nouveau une nouvelle famille. Parce que le gros problème, après le génocide, merci beaucoup, c'est mon fils. Non, son papa a été tué avec mon mari au lycée Notre-Dame de Cîteaux le 30 avril, il était gamin. Je suis fière que tu aies un grand garçon. Un grand garçon, père de famille. Donc toute cette génération qui vient, ça me fait chaud que... Donc là, quand nous nous sommes retrouvés entre folles, un peu vraiment déboussolées, en plus veuves, parce que veuve, mes amis, c'est pas seulement au Rwanda, j'ai appris que dans beaucoup de sociétés, veuve, c'est pas bien vu. Au Rwanda, c'est encore pire. On dirait que ça porte malheur. On en a entendu des choses. On en a entendu des méchancetés. Mais ça nous a aidés. Parce que si on te cajole, si on te dit, là, peut-être que nous n'aurions pas pu avancer. Mais comme au début, c'était assez dur. Là, on a bien pris. On a su qu'on était qu'on porte la guigne. Alors, on a beaucoup joué sur ça. Je vais vous raconter ça un peu plus tard, sans trop m'attarder. Mais je voulais vous dire que le pire, après un génocide, tu te retrouves dans un vide affectif pas possible. Tu étais la soeur de quelqu'un, la femme de quelqu'un, l'enfant de quelqu'un, la cousine de quelqu'un, la de quelqu'un. Maintenant, tu es quoi? Maintenant, tu es qui? Ce vide affectif dans lequel tu te trouves. Et en plus, tu ne peux pas faire vraiment le deuil parce que ce n'est pas tes morts naturelles où tu as le corps, où tu l'enterres, où il y a des veillées. Non. Même quand tu passais sur le tien qu'on avait tué, tu fais semblant que tu ne le connais pas, parce qu'on ne te dit pas aussi. Et la façon dont ils ont été tués atrocement, ça te reste, ça te reste dans la tête. Donc là, tu as ce vide affectif pas possible, tu as ce deuil qui n'est pas fait. Mais en plus du vide affectif, je pense que ce qui a été vraiment terrible au Rwanda, c'est pas qu'on a tué les Tutsis seulement, mais on a tué une société. On a tué les valeurs. Parce que pour pouvoir tuer une femme enceinte, pour tuer un bébé, pour tuer un élève que tu as enseigné, pour tuer un malade que tu as soigné, comment ça se fait que tu es vraiment arrivé à croire la propagande, à l'intégrer, que vraiment cette personne c'est un cafard, cette personne c'est un ennemi, cette personne d'ailleurs est un étranger, il doit retourner d'où il vient. Donc tu arrives à prendre tout ça, tu penses dans une société comme le Rwanda où on appelle les femmes Banyampinga, les femmes, les mères, c'est vraiment les porteuses de vie, mais on a vu des mères, on a vu des femmes qui ont tué. Comment ça se peut que ça, pour que ça se passe, il faut qu'on casse d'abord le tirazira, qu'on casse le tabou. Donc il n'y avait plus de tabou, il n'y avait plus rien. Même la fameuse religion, 80% ou plus, ce sont des chrétiens au Rwanda, ou des chrétiens au Rwanda. C'est aussi un autre point d'interrogation pour les religieux à s'interroger. On a pris certaines chansons, les chansons d'église, les chansons qu'on avait dans les dimanches, dans les cultes. Ceux du Rwanda qui se disaient « Ici, ni vimo byose, ni byabutu. » C'était une chanson qui disait « Ici, ni vimo byose, ni byuteka. » Tout ce qui est dans cette terre appartient à l'éternel. Ils ont changé partout où il y avait l'éternel, ils ont mis tout. Et ici, ni vimo byose, ni byabutu. Donc, on a chanté cette chanson. Tu fais la référence à la Bible, tu fais la référence à l'Église. Et cette fois, où est-ce que nous irons nous cacher? Parce qu'en 59, en 63, en 73, on s'est caché dans les églises. Et les églises étaient saintes. On n'entrait pas dans les églises pour tuer les gens. Cette fois-ci, on a dit que ça aussi, c'était faux. Même Dieu nous a abandonnés. Donc, dans les églises, on a tué des gens. Donc, je voulais vous dire, ce vide social, comment tu feras encore confiance à qui? Je ne fais ni confiance à Dieu, ni confiance au voisin, ni confiance au professeur, ni confiance au médecin, ni confiance au pasteur. Parce que ce sont eux, mes voisins, les humains comme moi. Et oui, je ne fais plus confiance aux internationales non plus. Je vous dis, là, sincèrement, là aussi, c'était ma colère. J'avais beaucoup de désespoir. Ça commence à diminuer. Mais vaut mieux. Et la fameuse communauté internationale qui était là. Le génocide au Rwanda, le génocide contre les Tutsis, la communauté internationale était là. L'ONU était là. On le savait que ça allait se passer. On n'a rien fait. On le savait, on aurait pu le prévenir, on n'a pas fait. Quand ça s'est passé, on aurait pu agir, on n'a pas fait. Pour ceux qui connaissent l'école technique de Kichutilo, celle-là, c'était une école où le contingent de la mémoire, le contingent de l'ONU belge était. Et bien sûr, comme c'était l'ONU, on est allé, les gens sont allés là en masse. Le jour où la Belgique, l'ONU, ont décidé qu'ils quittent, ils sont sortis, les tueurs sont rentrés. Ils ont tué des gens là-bas, qui étaient sous la protection. Donc, pour vous dire, là où j'ai perdu toute la confiance, c'est pas seulement dans les voisins et tout, mais dans cette communauté humaine, dans cette communauté internationale. Mais comment tu fais, excuse-moi, je vais faire bref. Comment tu fais pour continuer à vivre si tu ne fais pas confiance? Il faut qu'on regagne cette confiance. Il faut qu'on recrée cette famille dont je vous ai parlé, qui n'est plus, qui est complètement décimée. Il faut qu'on recrée cette société rwandaise, ce qu'on est en train de faire. Mais il faut aussi que les personnes qui sont construites elles-mêmes, physiquement, psychologiquement. Pour le moment, je suis contente qu'il y avait un enfant qui veut être psychologue, et aimable m'a dit aussi un aparté qui veut aussi l'être. Je suis contente parce qu'après j'ai décidé d'être psychothérapeute. Parce que tant que tu n'arrives pas à réarranger, c'est un peu comme quand tu as ouvert ta garde-robe et tout en temps des ordres, il faut prendre le temps de bien remettre les choses à leur place et de voir comment tu peux encore aller en avant. Donc je fais mon boulot, c'est un peu de vous aider à remettre en ordre votre garde-robe et non. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que ça marche, mais il faut des moyens pour ça. Il faut des moyens pour ça. Et chaque fois, je découvre encore plus d'horreur. L'autre jour, j'étais au Rwanda il y a un mois, et j'ai rencontré une jeune fille, elle ne peut pas quitter ma tête. Une jeune de 34 ans, elle avait 4 ans à l'époque. On l'a coupée à la tête, on l'a coupée des yeux, qui ne sont plus des yeux et la tête surtout. Mais ce que je voulais dire qui m'a vraiment fait mal, à 27 ans, elle n'est plus fertile. Elle ne peut pas avoir d'enfant. Et on découvre, en fait, je pense qu'il y a des médecins ici, mais quand l'hypothalamus, l'hypophyse est blessé, est attaqué, c'est là où sont les glandes qui font, qui produisent les ovaires et tout ça. Elle ne peut pas. Elle cherche à faire un IVF. IVF en français, c'est... In vitro, oui. Elle cherche à faire ça. Elle n'a pas de sous pour ça. Et tout le monde dit, mais pourquoi faire... Donc c'était un peu pour vous dire, en même temps, c'est vraiment fantastique ce qu'on se reconstruit, mais en même temps, c'est terrible ce que les conséquences sont encore là. Et ce que, là où je voudrais vraiment conclure... Excuse-moi, ce qui est très très important, pourquoi je vous parle de cette fameuse, de cette armoire à ranger, c'est parce que si on ne range pas notre armoire, c'est parce que si on ne se soigne pas psychologiquement, si on ne parle pas, si on ne vide pas, mais on le passe à nos enfants. On le passe à nos enfants, on le passe à notre génération et la génération le passera aux autres. Et il est vraiment temps que ça s'arrête. Si on a souffert, heureusement, il y en a qui ont survécu. On n'oubliera jamais les nôtres, mais au moins que les enfants qui viennent et les petits-enfants qui viennent, que ça s'arrête. C'est possible que ça s'arrête. Et si nous venons à une commémoration comme ça, sincèrement, c'est le message que je voudrais vous faire passer. J'allais dire, je vais d'abord faire le fundraising pour la fertilisation de ma cliente. Mais je veux que ça donne des choses concrètes. Comme ce que je viens de vous dire, à votre niveau personnel, faites en sorte que vos enfants, vos cousins, vos neveux, qui ne portent pas le poids que nous avons porté, le gouvernement fait son effort, chacun fait dans la famille, on fait dans l'école, on fait dans les églises, et on fait ensemble.